Radio Libertaire échange avec les auditeurs, hein, puisqu'il y a un auditeur me rappelait que mardi dernier, il y a eu une bonne émission sur Radio Libertaire, c'est toujours podcasté, ça devait être vers 16h. À propos d'un livre où on évoque les JO, les prochains Jeux Olympiques, et à la fois l'embrigadement, hein, évidemment, qui sévit partout et sous une autre formule, hein, comme le sport, hein, vous avez bien vu, puisque j'évoquais tout à l'heure pour le fascisme, vous savez bien le culte du corps, hein, là aussi pour les endoctrinements des pays totalitaires. Alors, sous d'autres formes, hein, sous d'autres apparences, hein, comme on l'a dit, hein, il est déguisé, il apparaît pas de la même manière, mais il est là un petit peu partout, et évidemment pour le plus grand nombre, c'est de leur dire, bah c'est pas ça du tout, hein, vous êtes en République, vous êtes libre, hein, vous êtes en démocratie, chacun choisit, évidemment, c'est une escroquerie absolue, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai rappelé. Alors, des chansons, bah, il y avait un dada, hein, de Bourvil, hein, en même temps ça peut nous ramener surtout au mouvement dada, hein. Je vous le conseille d'aller voir les dadaïstes, hein, aussi, qui était une révolte par rapport à la boucherie, la tragédie de la guerre de 14-18, et puis tout le mouvement, hein, après qu'a suivi les surréalistes, qui étaient des mouvements de contestation, là aussi des mouvements d'émancipation, des mouvements de liberté, et qui consistaient justement dans toutes ces productions artistiques à faire apparaître, à montrer l'ignominie, mais toujours beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, comme Roland Topor, je pense à lui là, il y a une exposition que vous pouvez aller voir à la très grande bibliothèque, comme on l'appelle, pas à Paris, en ce moment, une exposition autour de Roland Topor. La suite, c'était le Parti d'en rire, Pierre Dac, Francis Blanche, hein, puisque, je vous le rappelle, Francis Blanche a commis une bonne action, il a eu un fils dans sa vie, et peut-être d'autres enfants, mais en tout cas, qui s'appelle Jean-Marie Blanche, que l'on connaît un peu, qui est venu dans cette émission, et qui occupe les micros avec sa poésie, le samedi après-midi, dans une émission qui s'appelle Dessous de scène, Jean-Marie Blanche, je le salue s'il est à l'écoute, personne n'écoute, mais enfin bon, on peut le dire quand même, à l'écoute de Radio Libertaire et de cette émission. Et puis, dans la foulée, bah, c'est passé comme ça, L'herbe tendre. Là aussi, Michel Simon, parole de Serge Gainsbourg, interprété par magnifique chanson de Serge Gainsbourg, interprété par Michel Simon, acteur évidemment prodigieux. Alors, je voulais vous parler de notre personne particulièrement intéressante, hein, je vous l'avais dit au début de cette émission, Albert Cosseri, avec un petit texte. Je vous passe juste quelques petites parties musicales, et tout de suite je vous repasse ça, parce que obligé de faire quelque chose dans le studio de Radio Libertaire. Chronique Hebdo, alors, bah oui, j'évoquais Albert Cosseri, hein, je vous l'ai dit, vous pouvez aller écouter une émission autour d'Albert Cosseri, un entretien, l'émission Chronique Hebdo, il y a plus de 20 ans, d'un entretien, une discussion plutôt dans un café rue de Seine à Paris, et avec ce personnage extraordinaire, Albert Cosri. Et c'était la seule émission de Chronique Hebdo qui, parce que vous savez, c'est toujours le matin, c'est en direct, et c'était pas possible là de faire venir Albert Cosri le matin. Et on était bien d'accord, il avait une bonne raison, une raison plus que suffisante. Eh bien, c'était qu'il dormait jusqu'à midi. Alors, vous allez voir pourquoi, puisque c'est en relation avec cet article du Canard Enchaîné, hein, je vous le dis, de celui d'hier, donc celui qui a envoyé des salves, hein, sur un fion, et on verra le résultat. Et donc, mercredi 19 avril, la révolution, donc vous pourrez trouver ça dans le Canard Enchaîné, dans leur rubrique critique de livres, la révolution par la sieste. Hein. Donc, Émilien Bernard qui a signé cet article-là, je vais vous le lire, « Le désert des ambitions » par Rodolphe Christin, donc c'est l'auteur de cet ouvrage qui vient de sortir, Le désert des ambitions par Rodolphe Christin, l'échappée sur une biographie d'Albert Cosri, et donc chroniquée là par Émilien Bernard. En cet épuisant contexte électoral, il peut se révéler vital de prendre du champ, les grottes pour hiberner se faisant rares, hein, c'est ça, il n'y a pas un seul endroit, c'est partout, hein, donc il y a eu des périodes de l'histoire où il y avait encore des petits endroits tranquilles, mais là maintenant c'est fini, hein, vous êtes fliqués, surveillés partout, il n'y a pas un endroit, un seul lieu, enfin c'est la merdonnité absolue, et ça c'est évidemment un des éléments du fascisme dont je parlais tout à l'heure, la société du contrôle permanent, du contrôle absolu. Les plus démunis se tourneront vers l'œuvre d'Albert Cosri, auteur disparu en 2006. Comme j'ai mis un trait, alors je ne sais pas, 2008-2006, hein, je pense que c'est 2006, pour Albert Cosri, serait 11 ans. Celui qui affirmait écrire, écoutez ça, alors c'est ça vraiment, c'est fondamental, vous savez, puisque vous êtes, c'est le principe absolu aussi de cette émission, hein, vous le savez, la critique absolue radicale du travail, évidemment le travail capitaliste, hein, le travail salarié, l'esclavage tel qu'il est, c'est-à-dire perdre sa vie, hein, la perte de sa vie sera paumée, perdue, parce que vous aurez bossé, on vous aura conditionné, manipulé, dès le premier âge, hein, par la famille, évidemment, conditionné, manipulé, par l'école, et par l'ensemble de cette société qui se reproduit, hein, je vous l'ai dit pourquoi tout à l'heure, alors, et donc, je reviens à ce que disait Albert Cosri, ce qu'on a essayé d'appliquer, hein, puisque comme on est lecteur d'Albert Cosri, celui qui a affirmé écrire pour que quelqu'un qui vient de le lire, n'aille pas travailler le lendemain matin. Le lendemain, hein. On lit un ouvrage d'Albert Cosri. Alors il y a les mendiants et orgueilleux en particulier, l'ambition dans le désert, ou alors les fainéants dans la vallée fertile, et ça veut dire quelque chose, hein, puisque fainéants, ce sont les autres, hein, vous savez, ceux qui sont dans l'action permanente, et qui font le néant de l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la tête, hein, tout dans les muscles, tout dans l'action, et tout dans un langage, hein, je vous le disais tout à l'heure, ou une pensée, un prêt à penser, donc il n'y a plus à penser, il n'y a plus à réfléchir. Donc à la différence, je vous le rappelle, vous pouvez trouver des bouquins d'Albert Cosri, je pense à Publico, puisque à un moment il y a un coffret, super coffret, pas très cher en plus, puisque ce sont les livres format poche, hein, des 8 bouquins d'Albert Cosri, et vous rappelez la formule, lire un seul de ses livres pour ne plus aller bosser. Alors, je vous l'ai dit, hein, ne plus aller bosser, évidemment, pour le capitalisme, ça veut pas dire la révolution par la sieste, il faut comprendre. C'est une sieste qui produit de la réflexion, c'est une sieste révolutionnaire, c'est une sieste subversive, c'est une sieste qui bouscule l'ordre établi, hein, évidemment. Alors, professait Albert Cosri une vision tranchée de la supercherie moderne. Aucune force, disait-il, ne fera de nous les esclaves d'un régime, quel qu'il soit, hein, je vous en parlais ce matin, pour la bonne raison que nous ne prenons, contrairement aux imbéciles, aucun régime au sérieux. Hein, je vous ai passé aussi le parti d'en rire. Hein. Nous ne prenons, contrairement aux imbéciles, aucun régime au sérieux. C'est une certitude, là je vous le dis, hein, pour les électeurs en tout cas, et pour ceux qui se présentent au suffrage, ce sont des imbéciles. Hein, voilà ce que veut dire le crétin, le crétinus moderne. Et nous sommes dans cette société. Et la difficulté, je vous l'ai déjà dit aussi, hein, c'est de pas avoir un peu plus loin une réflexion pour les choses sont bien faites, hein, pour s'apercevoir qu'on est un crétin. Hein. Vous allez me dire, bon, et toi, qu'est-ce que... et les auditeurs, pour s'en apercevoir, mais déjà poser la question, c'est y répondre un petit peu. Alors, en tout cas, pour moi, c'est une certitude, hein, à eux de le démontrer, ils vont encore le démontrer, les électeurs. Et puis ceux, les imbéciles de ce soir que vous verrez dans le fenestron. Nous défendons toujours bien parce que nous savons en rire. Hein. C'était ça aussi Albert Cosri, hein, la poésie, je vous le rappelle, né au Caire, en Égypte, et donc auteur, donc à apprendre le français, hein, une autre langue que sa langue paternelle, je voudrais dire maternelle, la langue du berceau, et après apprendre à s'exprimer, justement, comme il l'a fait merveilleusement, avec un choix, hein, pour différentes raisons, dans cette langue, hein, en rappelant que c'était un lecteur très jeune de l'œuvre de Dostoïevski, hein, là aussi, à relire dans des versions et dans des traductions, puisque vous savez, traduction, version, interprétation sont toujours assez différentes, et quand on peut pas le lire comme une auditrice, dans le texte. Des pépites de cet acabit, Cosri en a forgé de pleines brouettes, disséminées au cœur des 8 livres composant son œuvre romanesque. Apôtre de la démission, du refus de parvenir, hein, vous savez que pour les libertaires, les anarchistes, c'est ce que ça veut dire, le refus de parvenir. Alors évidemment, ce refus de parvenir à, comme on dit, quand on voit, comme notre formule, à peu près tous autour de nous, votre réussite, on préfère notre échec. Hein. Bon, on préfère notre échec, il n'en est pas un, hein, de voir ça comme, mais le refus de parvenir... de parvenir à l'imbécilité, de parvenir à la crétinerie, de parvenir à être des perroquets, je vous l'ai dit, des petits automates, des petits soldats, des personnes infantilisées. Donc refus de, c'est ça le refus de parvenir, hein, d'un quotidien fait de sieste et d'amour simple, hein, ce fervent parisien, je vous l'ai dit, ce Bagnaudet du côté de la rue de Seine à Paris. La même petite chambre, hein, que l'hôtel lui avait accordée gratuitement, hein, puisque donc on pouvait aller rencontrer Albert Cosri depuis une quarantaine d'années. Il avait vécu, je vais vous le dire, dans l'hôtel qu'il s'appelle, qui existe toujours, rue de Seine, l'hôtel Le Louisiane. Ce fervent parisien d'origine égyptienne n'a jamais cédé aux sirènes de la merdonité, composant dans son coin chichement des écrits bourrés de scènes sédition. À l'image de son héros Gohar, universitaire, hein, devenu mendiant et affirmant dans Mendiant et Orgueilleux qu'il refuse tout simplement de collaborer à cet immense Duprix. Alors je vous signale comme ça que certains l'ont refusé, il y aurait un ambassadeur, un juge, qui aurait dit, on va, si une certaine Marine est élue, on démissionnera. Hein, mais pour les autres, non. Hein, les autres, ils sont... C'est acceptable, hein, c'est pas pareil, hein, vous le savez, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble de ces candidats. Alors, Christin, donc, qui est l'auteur du désert, Le désert des ambitions, Rodolphe Christin, à l'échappée, l'avoue, il a une dette immense envers l'auteur, lui aussi, hein, il y en a d'autres, enfin une dette, je ne sais pas, mais en tout cas, d'essayer de voir que la force de cet auteur, puisque vous le savez, toujours une forme de lecture, c'est un peu un dévoilement ou c'est une correspondance, c'est une résonance avec ce que l'on lit, évidemment, hein, vous savez bien, entre le lecteur et celui qui a écrit le texte, évidemment, cette complicité et cette façon d'être ensemble, encore une fois, hein, comme on dit, pour la réécriture, puisque c'est le lecteur, en lisant, qui redonne vie, évidemment, à l'auteur de ces lignes, de ce roman. Une ambition, alors je vous le dis, dans le désert, un autre de ses ouvrages, je vous les ai cités déjà, des fainéants dans la vallée fertile, un maître à penser, pas moins, dit-il. Alors, ni Dieu ni Metz, vous le savez bien, hein, pour ça, encore une fois, un auteur important qui présente à son lecteur un précis de subversion doublé d'un art de vivre contre la merdonité et le gouvernement des puissants. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre-Joseph Proudhon, être gouverné, c'est quoi ? La merdonité, chère à aussi un autre auteur, vous pouvez aller voir, Léris, sensible et acéré. L'hommage de Rodolphe Christin multiplie les angles d'attaque pour mieux cerner l'homme et le créateur qu'est Albert Cosri. Nul doute qu'en refermant ce livre, le lecteur optera pour une roborative sieste au soleil, les doigts de pied en éventail. Hein, voilà ce que je voulais vous faire part ce matin, hein, plutôt qu'un bulletin de faire part, comme on dit pour les électeurs, les élections. Et le bulletin de vote, hein, faire part de décès, ce que je pouvais vous dire d'essayer d'aller lire, relire, et peut-être ce que vous trouverez, je vous le rappelle, au Salon du Livre Libertaire, Halle des Blancs Manteaux, samedi et dimanche prochain, c'est ouvert à partir dans la matinée, vers 10-11 heures, jusqu'au soir très tard, et le dimanche jusqu'à, je crois, 16 heures, et la matinée, toute la journée. Donc, je vous donne l'adresse, 48 rue Vieille du Temple, métro Saint-Paul, Blanc-Manteau, hein, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, le religieux est partout, Blanc-Manteau, Vieille du Temple, Temple et le métro Saint-Paul. Voilà pour ce salon du livre, ces livres, et peut-être aussi trouver là-bas, eh bien, l'œuvre, ou les demander, hein, vous pouvez les demander à Publico, je vous le rappelle, 145 rue Amelot, Paris 11e, la librairie du Monde Libertaire, la librairie de Radio Libertaire, siège de la radio, comme on dit, si vous voulez nous écrire, sur les émissions, ou si vous avez des choses à dire, vous mettez donc Radio Libertaire, l'émission, et puis le nom de l'émission est posté 145 rue Amelot, Paris 11e. Voilà, une autre petite partie musicale, et puis la suite de Chronique Hebdo.
À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire du crêpe autour des cornes.
Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de traquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur
Chronique Hebdo reprend après une chanson. C'était une chanson de Jacques Prévert, hein. Ça fait du bien pour mettre un petit peu de la poésie, hein, dans tout ça, après Albert Cosseri. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. Alors là, c'est dimanche prochain, hein, c'est les baveux à l'enterrement. Donc voyez la recette de Jacques Prévert, et c'est chanté par Mouloudji, donc un disque aussi. Mouloudji chante Jacques Prévert. Alors, je vais vous raconter donc l'histoire d'actualité, hein. Je vous avais dit le nucléaire, l'importance, puisque une auditrice nous rappelait que Madame Artaud était pour le nucléaire, hein. Le nucléaire, parce que on sera trouvé en soi, c'est formidable, et il suffit d'une bonne technique, hein, une bonne technique d'ultra-gauche, ou une bonne technique démocratique, ou une bonne technique républicaine, pour que tout s'arrange, hein, pour le nucléaire. Alors ça s'arrange pas, hein, c'est loin de s'arranger, puisque Là, il y a deux jours, 8 associations ont déposé un recours gracieux. Alors, vous savez ce que ça veut dire, hein, le droit, 5 ans de droit, tout le reste de travers, un recours gracieux, hein, un recours plein de grâce, Monseigneur, où on demande la grâce contre le décret de création de l'EPR. Hein, je vous l'ai déjà dit, les anarchies partout, c'est les diaphoirus de Molière, avec d'un langage, hein, puisqu'il y en avait un qui avait là, qui passait devant les cours, qui avait la phobie administrative. Je ne sais pas son nom, c'est pas très intéressant, il a fait 9 jours sinistres, et donc ça c'est mieux. Et la phobie administrative, et lui il avait appris aussi le langage des diaphoirus, hein, c'est à peu près tous ceux du gouvernement, hein. Bon, vous voyez ça. Le couvercle, alors, de la cuve de ce réacteur de l'EPR qui est en construction, il s'est pas fait, hein, on peut encore peut-être être sauvé, à Flamanville dans la Manche, est défectueux, tout comme le fond de la cuve, elle aussi fabriquée par Areva, je vous l'ai dit tout à l'heure, au Creusot, c'était anciennement Framatome. Cela pour du temps de Giscardouille, hein. Giscardouille avait des intérêts là-dedans, et lui il va toujours, le débris, le déchet, radioactif aussi, il est toujours là, il bouge encore. Hein. Cela pourrait mettre en cause l'achèvement du réacteur. Enfin, on voudrait bien, ils vont trouver une autre combine. 8 associations, dont Greenpeace et l'Observatoire du nucléaire, qu'elle soutenait le Hulot, enfin c'est une autre histoire, ont annoncé mercredi 19 avril, hein, c'était hier, avoir déposé auprès du premier sinistre Bernard Cazeneuve un recours gracieux afin de contester le décret de création du réacteur, vous savez, le troisième génération, l'EPR, European, hein, c'est ça, Reactor de Flamanville, Manche. European Pressure, hein, Reactor, EPR, c'est pas rien. Hein. Ce recours déposé mardi 18 est la première étape avant un recours devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation des décrets de 2007. Alors, les révélations de ces derniers mois montrent des graves dysfonctionnements, enfin le mot, vous savez ça, c'est la langue orwellienne, hein, de l'usine Areva du Creusot ont été forgées de nombreuses pièces de l'EPR, en particulier sa cuve, la cuve et le couvercle, c'est à des fuites Areva. Alors, il y a plein de fissures, bon, mais on rigole pas, hein. Areva et Autorité de Sûreté Nucléaire, l'ASN, que tout le monde nous envie, écrit l'Observatoire du nucléaire dans un communiqué. Alors, dans un communiqué distinct, Greenpeace estime, pour sa part, qu'il est désormais établi qu'EDF et Areva ont dissimulé, bah, c'est l'habitude, hein. Vous savez, le mensonge d'une pratique habituelle, hein, du capitalisme, évidemment, c'est que du mensonge, ont dissimulé des informations au public pendant des années sur leur incapacité technique financière à mener ce chantier. Alors, il y en a un autre EPR qui n'est pas achevé en Finlande. Et alors, je vous disais quand même les nouvelles, hein, à l'horizon de 2030, je vous ai parlé au début de Superphénix, qui renaît de ses cendres à Crémalville, hein, je vous le signale, dans l'Isère, devrait enfin avoir rendu l'âme sans espoir de cette renaissance. Hein, vous savez, renaître de ses cendres, le phénix. Et là, nouveauté, qui ça vient de sortir, comme disait l'autre, c'est pas tout à fait. Parce qu'écoutez bien, demeureront en place le bâtiment du réacteur, ainsi qu'un atelier pour l'entreposage du combustible, où se trouve rien que ça, une piscine contenant non seulement le cœur déjà brûlé, hein, 4,8 tonnes de plutonium. Alors bon, le plutonium, c'est 1000 ou 10 000 fois plus radioactif que l'uranium, mais également un cœur tout neuf, prêt à servir, car EDF, et là, c'est formidable, n'exclut pas d'installer ici un jour un nouveau réacteur de 4e génération. On n'y est pas à la 3e, ils n'ont pas réussi, ça fuite partout. Enfin bon, ça marchera peut-être pas. Ils en sont déjà à la 4e, à neutrons rapides lui aussi. Et ce, alors que le modèle de 3e génération, c'est ce que je viens de vous dire, l'EPR en construction à Flamanville n'a toujours pas livré ses premiers kilowattheures. Ben heureusement, hein, heureusement, parce que vu qu'il y a déjà des fissures graves, on ne sait pas quand est-ce que ça va marcher. Alors, Je l'ai mis déjà, hein, pour l'EPR de Flamanville, en panne avant la mise en fuite. Hein, en panne avant la mise en fuite. Alors, je vous avais parlé de Brennilis, hein, le premier petit réacteur, si l'on peut dire, 70 mégawatts dans le Finistère, dans les monts d'arrêt, n'est pas à l'arrêt, mise en service en 67, stoppé en 85, et ils arriveront peut-être à le démanteler, mais ils savent pas trop, donc avant 2032. Mais c'est pas sûr, hein, je vous ai dit, démantèlement, tellement dément. Alors là aussi, pour le Crémalville, faut le rappeler, donc 85 mètres le bâtiment, hein, donc il fait de hauteur. Là aussi, la hauteur et les volumes des composants, 43 mètres de hauteur pour les générateurs de vapeur, c'est le plus gros du monde, hein, de la planète, donc à l'arrêt, hein, je vous l'ai dit, quatrième peut-être génération. Le plus grand réacteur en démantèlement se vante EDF au monde, hein. C'est nous qui avons le plus gros truc qui peut exploser, qui peut tout ravager, c'est la France, hein. C'est toujours pareil, hein. Et donc tous ces candidats sont pro-nucléaires, je vous le dis, à part Mélenchon, apparemment. Monsieur Hamon aussi l'a évoqué, mais enfin, mais pour les autres comme Madame Artaud, Monsieur Poutou, tout ça, c'est formidable pour le travail, pour le boulot, pour la croissance. Et si on met des gens à réfléchir là-dessus, sur le nucléaire, ils trouveront la solution. Alors, c'est une chose quand même qui tue. Je vous le dis, hein, restez vivants quand même. L'industrie nucléaire n'a aucunement anticipé la fin de vie de ses réacteurs, certaine qu'elle était, que le moment venu, hein, c'est pour Madame Artaud, ses ingénieurs sauraient trouver les solutions. Ah bah oui, quand on sera au bout du bout, on trouvera. Hein. Vous savez, comme à Fukushima, ils ont trouvé. Et puis, comme à Tchernobyl, hein, ils avaient trouvé. Et pour la France, bon, nous avons Lourdes. Et vous savez, comme avec Monsieur Fillon, sens commun, vous avez la prière. C'est quand même une chose formidable. Alors, je conclus, en réalité, la réalité pourtant que l'industrie nucléaire n'avait aucunement anticipé la fin de ses réacteurs, hein, je vous le dis, sur quelle était, en, je vous le répète, de trouver des solutions, ce n'est que depuis 2006 que la loi, hein, exigeant la loi est là, lors de la création d'une installation atomique, maintenant, soit défini les principes généraux proposés pour le démantèlement. Hein, tellement dément, je vous l'ai dit. La filière nucléaire a été incapable d'envisager son déclin, juge Yves Marignac, directeur de l'Agence d'information sur nucléaire. Or, il nous dit, parce que bon, il a fait de l'excursion, il a fait des chemins de randonnée, or, comme en montagne, c'est souvent dans la descente, quand l'attention se relâche, que surviennent les accidents. Alors, je vous parlais du nucléaire, et ben c'est pareil, hein. Pour les élections, je vous l'ai dit, hein, c'est comme en montagne, c'est pendant la descente, hein, pour les électeurs, vous allez voir, après, et ceux qui n'ont pas voté, que surviendront les accidents. Alors bon, ça ne tient qu'à nous, hein, encore une fois, de la décomposition des partis politiques, décomposition de la politique telle qu'elle est, donc de voir un peu partout... que il faut passer, c'est pas une sixième république, à un changement radical d'organisation, et là encore la responsabilité que peuvent avoir les gens dans ce domaine. Alors, je voulais juste vous lire ça, hein, pour rendre compte que si la nocivité de tous ces dirigeants, eh bien... on parle des assemblées. Imagine-t-on des assemblées de citoyens, enfin de citoyens, de personnes décidant de mettre en route un chantier EPR destiné à engloutir des milliards d'euros, si aussi dangereux, une assemblée de villages acceptant d'enfouir des tonnes de déchets radioactifs à 500 mètres de profondeur, une assemblée de quartiers choisissant de financer la reconstruction d'un incinérateur de 2 milliards d'euros? Un regroupement de paysans décidant de construire un aéroport Notre-Dame-des-Landes inutile en bousillant des terres agricoles et un réservoir de biodiversité. Des âgés de salariés acceptant l'idée de travailler plus en gagnant moins et dans des conditions absolument dégueulasses. Eh bien non, Hein. Eh bien, pour ça, pour que ce soit possible, ça, et tout ça avec des assemblées, avec des gens qui décideraient eux-mêmes, et s'en mettraient pas, évidemment, un pouvoir incapable qui fera tout le contraire et qui continuera, comme je vous le disais, pour la description de l'énergie nucléaire. Voilà, c'est Chronique Hebdo, c'est terminé. Et je vous le rappelle, Salon du Livre Libertaire, samedi dimanche prochain. Donc c'est au Blanc-Manteau, Halle des Blancs-Manteaux, 46 rue Vieille du Temple, dans le 4e, métro Saint-Paul. Et j'y serai, et beaucoup d'animateurs de Radio Libertaire seront présents donc pour ce Salon du Livre. À bientôt, et peut-être à samedi. Salut !